Vincent Léonard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général adjoint en charge des finances du groupe SEB. On vient d'assister à la présentation de vos résultats. Qu'est-ce qui a été significatif pour vous sur l'exercice 2018?
Bah écoutez, je pense que c'est le fait, enfin d'une part le fait que dans un environnement qui était difficile, qui s'est en fait durci pendant l'année, en particulier au niveau des matières premières, au niveau des devises, que dans cet environnement, bah le business model du groupe, la stratégie du groupe a été validée puisqu'on fait une année avec de bons résultats. D'une part, une très belle croissance des ventes et puis une croissance du résultat opérationnel, une forte croissance du résultat net, donc une belle année.
Alors, le grand pari du groupe SEB au cours des dernières années, ça avait été la Chine. On le sait, il y a eu beaucoup d'inquiétudes sur ce marché chinois. Pour SEB, qu'est-ce que vous en avez dit? Avec cette croissance de 25%, on a l'impression que, voilà, en tout cas, ça fonctionne toujours bien en Chine.
Ça fonctionne toujours bien et bien sûr on entend comme tout le monde hein, les inquiétudes sur un ralentissement de la Chine. En ce qui nous concerne, on reste très confiant. Alors pas forcément sur des performances à 25% de croissance, mais sur une croissance à deux chiffres, parce que les fondamentaux de notre croissance, c'est ou reposent sur la classe moyenne chinoise, qui est de plus en plus nombreuse d'une part, et aspire à acheter nos produits. Donc on est dans des zones de prix, on est un peu dans le sweet spot, si vous voulez, au meilleur endroit pour rencontrer cette classe moyenne qui commence à dépenser. Et puis on bénéficie des politiques de l'administration chinoise qui visent à favoriser la consommation domestique. Donc on est au cœur de ça et on reste donc très confiant.
Ça, c'est votre premier marché aujourd'hui, hein. Effectivement, on a la France qui est à 12%. En France, il y a eu un effet sur le T4, forcément, de ce qui s'est passé, à la fois un certain nombre de blocages et peut-être des sujets aux côtés des distributeurs pour vous.
Oui, bien sûr, on a eu un T4 difficile, l'effet gilet jaune, difficile à quantifier, mais on a fait notre plus mauvais trimestre de l'année, donc clairement ça nous a impacté. Après, la France, oui, reste un marché important, très profitable pour nous, donc sur lequel on entend bien revenir à une croissance.
Alors, un marché là, on a de la croissance, mais pas pour vous, enfin, pas en tout cas peut-être ce que vous espériez, c'est les États-Unis. Comment on explique ça? C'est vrai qu'on parle toujours de la croissance américaine. Vous avez des marchés spécifiques aux États-Unis?
On a une distribution américaine hein, qui, pour tout le monde, on n'est pas les seuls à avoir ces difficultés-là aux États-Unis. Beaucoup de grandes marques souffrent aux États-Unis. On a du fait des grandes difficultés de la distribution américaine, qui a beaucoup trop de mètres carrés en fait, et qui depuis maintenant 2-3 ans se restructure un peu à marche forcée, y compris à coup de faillite et autres. Donc nécessairement, nous sommes impactés par ces perturbations dans la distribution américaine. Néanmoins, bon, il faut relativiser parce que les États-Unis, pour nous, c'est un marché principalement d'articles culinaires sur lesquels nous conservons un très bon business. Nous sommes leaders là-bas, bien profitables, en croissance sur l'année 2018. Donc ce sont surtout des catégories un petit peu moins importantes pour nous qui ont souffert sur l'année.
Un marché intéressant aussi, c'est l'Europe centrale, parce qu'on parle souvent de l'Europe occidentale, voilà, souvent des faibles croissances. En Europe de l'Est et centrale, il y a une bonne croissance.
C'est une zone de croissance depuis plusieurs années, depuis, je dirais, 5-6 ans de forte croissance. Nous avons investi de façon continue sur ces marchés-là, en force de vente, en élargissement des catégories de produits que nous offrons, et nous rencontrons un grand succès dans la quasi-totalité de ces marchés-là. Donc on est maintenant, on en parlait à l'instant, à plus de 300 millions sur cette zone un petit peu large d'Europe centrale, une croissance à plus de 20%. Ce sont maintenant de très beaux marchés qui deviennent véritablement importants pour le groupe.
Alors, dans votre présentation aujourd'hui, vous avez mis en avant le digital hein, avec beaucoup d'exemples et d'exemples concrets. Je me souviens, il y a quelques années, quand on en avait parlé avec Thierry Latour d'Arthez, on a été encore au début. Bon, il fallait y aller. Là, aujourd'hui, il y a des résultats concrets de cette stratégie-là sur un certain nombre de produits où on voit effectivement la croissance. Donc, il y a un appétit des consommateurs pour ce type de produit.
Alors, d'une part, le type de produit, mais le digital. Donc, on a parlé des produits ce matin, hein, certains grands succès. Cookeo Connect, on en parlait, qui est un grand succès dans l'offre de services que sa connexion permet, qui rencontre un très bon accueil des consommateurs. Mais le digital, c'est aussi pour nous, toute la relation client et la connaissance, le consommateur, je veux dire, la connaissance du consommateur, tout le e-marketing que ces technologies nous permettent de faire et de faire de façon très efficace, très ciblée. Donc une connaissance du consommateur qui s'améliore rapidement grâce au digital. Et puis c'est le e-commerce, puisque près de 25% de nos ventes sont maintenant réalisées par des canaux digitaux, soit directement avec les pure players, soit par les plateformes digitales de nos clients traditionnels.
Oui, parce que ça a été le grand phénomène, hein, des dernières années, c'est-à-dire qu'on peut acheter en direct chez vous, on peut acheter chez les distributeurs, on peut acheter en ligne vos produits aujourd'hui.
Absolument. La Chine, on parlait de la Chine à l'instant, plus de 40% de notre business en Chine est fait en fait sur des appareils mobiles, sur des smartphones.
Alors il y a aussi, on parlait d'innovation tout à l'heure, il y a aussi une évolution de la gamme des produits. Chez vous, j'ai vu effectivement, on parlait des mugs isothermes. Bon, bah voilà, c'est une gamme qui s'est développée, ça fait partie aussi de l'offre aux produits que vous pouvez avoir.
Oui, tout à fait, notre offre s'élargit à des catégories, bien sûr, comment dire, connexes, proches, mais tout ce qu'on appelle, alors on appelle ça le kitchenware, les articles, les ustensiles de cuisine, les mugs, les boîtes de conservation alimentaire, tout ça sont en fait des catégories en forte croissance, dont le marché est en forte croissance, et sur lesquelles nos marques, nos grandes marques, Tefal en particulier, ont toute légitimité pour réussir. Donc et support en Chine. Donc on investit de façon assez agressive sur ces catégories-là et ça répond très bien.
Alors on a parlé ensemble de l'activité grand public, hein, essentiellement. Il y a l'activité pro aussi qui se développe, hein, c'est à peu près 10% de votre activité globale aujourd'hui. Aux États-Unis et ailleurs, les machines à café, ce marché du café, on en a pas mal parlé, il est vraiment en train de... Voilà, vous prenez des parts de marché significatives dans ce secteur-là.
Alors d'une part, le marché est en forte croissance, hein, le marché du café... Avec des cafés de plus en plus sophistiqués, ce qu'on appelle les specialty coffees, donc des cafés latte, des cappuccinos, des choses comme ça. Ça se sophistique dans le monde entier, en fait. Ces cafés-là sont en forte croissance. Vous voyez des coffee shops émerger un peu partout. Vous voyez dans des magasins de proximité, pardon, beaucoup d'offres de cafés de plus en plus. Les deux grands marchés en ce domaine sont les États-Unis et la Chine, à partir de situations de départ très différentes, mais qui tous les deux sont en forte croissance sur ces cafés-là. Et donc notre offre de machine à café automatique de VMF est extrêmement compétitive. Et oui, on gagne des parts de marché rapidement. On fait plus de 17% de croissance là en 2018 sur ces catégories-là.
Et vous venez d'y ajouter donc le café américain, comme on dit, avec, qu'on voit en carafe, hein, sur les photos qu'on connaît bien.
Voilà, le café filtre américain avec le rachat du numéro 2 de ce marché-là, qui s'appelle Wilbur Curtis, qui va nous permettre... d'une part, qui a, lui, une présence assez granulaire dans la distribution américaine. Donc, il va nous offrir des accès clients, en particulier de clients qui cherchent soit à se convertir aux machines full auto et au café dont je parlais, soit à ajouter cette offre-là à leur offre existante. Donc, de belles opportunités pour nous.
Le mot de la fin, bon, vous dites clairement le contexte ne va pas forcément évoluer de manière favorable. Bon, on a toujours une guerre commerciale. Il y a beaucoup de sujets sur effectivement la croissance elle-même. Mais vous dites, vous pensez pouvoir faire mieux, effectivement, même si vous ne donnez pas de prévisions, hein, forcément très chiffrées, comme chaque année. Vous dites, on peut faire mieux que le marché en 2019.
Oui, alors d'une part, c'est, si vous regardez notre performance sur ces nombreuses dernières années, c'est le cas. Hein, on croit plus vite que le marché. Donc, bien sûr, ça reste notre ambition. On a la chance d'être sur un marché, le marché des articles culinaires, du petit électroménager et du café pro, sur des marchés qui sont en croissance. Donc on bénéficie de cette vague-là et on vise à surperformer l'industrie, bien sûr, en particulier via l'innovation.
Merci beaucoup Vincent Léonard.
Avec plaisir.